Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour chers auditeurs, je reçois aujourd'hui en second entretien Étienne Tricot, président de la REP. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Merci d'être venu. Nous avons abordé pas mal de sujets lors du premier interview, mais effectivement il y a un sujet qu'on n'a pas encore développé, c'est tout ce qui est effectivement votre travail à l'international, le travail de la REP, et principalement sur tout ce qui est projet urbain, aménagement, études urbaines. Est-ce que tu peux me donner un exemple et puis un peu le développer, parce que c'est formidable comme expérience, hein.
Écoute, merci, oui, me donner l'occasion de reparler de ce sujet qui nous passionne, qui est la ville et la ville qui se transforme. Alors, dans des conditions extrêmement différentes selon qu'on est dans nos vieux pays ou bien dans les pays émergents, mais avec finalement des problématiques qui sont les mêmes, qui sont liées à l'analyse que tout le monde fait de la ville contemporaine, qui a, si on le dit de manière un peu caricaturale, de grandes maladies, une maladie chronique et une maladie mortelle. Une maladie chronique, c'est celle de l'exclusion. C'est-à-dire que si la ville est par essence le lieu de l'inclusion, le lieu où les gens se réunissent pour créer et partager ensemble des richesses,
c'est aussi celle où on ignore les autres.
Voilà, et ces richesses, qu'elles soient d'ailleurs matérielles, spirituelles, intellectuelles, etc., on voit que l'exclusion, du coup, est le pire des maux de la ville. Mmh. Et malheureusement, nos villes excluent aujourd'hui par le transport, par la richesse, par l'emploi, par la formation, par le logement, etc. Et puis la deuxième grande maladie de la ville, la maladie qui est mortelle, c'est les questions environnementales. Mmh. C'est-à-dire que si on continue à bouffer aujourd'hui, comme aujourd'hui, deux ou trois planètes par an, ben on n'en aura plus au bout d'un moment. Donc, on sent bien qu'il faut qu'on attaque ces questions et qu'elles se posent finalement dans des modalités différentes, mais un peu partout où on travaille à travers le monde. Et donc, notre expérience, effectivement, on en a eu alors je pense aux plus récentes en Russie avec Skolkovo, qui est ce qu'on appelle le cluster de Moscou, le plateau de Saclay de Moscou, la Silicon Valley de Moscou, je ne sais pas comment il faut l'appeler.
Vous allez laisser rentrer dans le sein des saints.
Voilà, exactement.
Incroyable.
Donc ce lieu où se concentrent à la fois recherche, start-up, université, avec l'idée qu'on passe très rapidement de l'innovation au circuit économique. Comment on fait une ville autour de ce sujet-là? On a travaillé récemment aussi au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, à Dammam, et puis plus récemment au Bahreïn, au Vietnam, en Chine. Je voudrais peut-être développer un peu ce qui se passe en Chine, parce que la Chine est un lieu absolument passionnant. Vous savez qu'on estime que dans les 5 ans qui viennent, il y aura sans doute une centaine de millions d'urbains de plus. Donc un développement urbain exponentiel. La Chine a déjà vécu une première phase depuis quelques décennies de développement urbain dans les conditions qu'on connaît, c'est-à-dire d'extrêmement rude, avec de grands quartiers d'habitat qui sont... Oui, là, nos grands ensembles n'ont rien à envier à ces lieux. Aujourd'hui, les autorités chinoises sont en attente d'autre chose. Et on a, par exemple, récemment travaillé sur l'éco-cité de Caidian à Wuhan, où le choix que nous avons fait, c'est d'être volontairement décalé par rapport à la manière dont, de manière un petit peu formelle aujourd'hui, l'approche des éco-cités se fait malheureusement souvent à travers le monde, c'est-à-dire la mise en place d'un système finalement, une analyse systémique sur les mobilités, sur les lieux de production, sur les lieux d'habitat, sur la relation avec la nature, etc. Donc on a, bien sûr, à un moment, il faut mettre en place
ces dispositifs,
mettre un modèle. Mais en amont de cela, on est parti de, finalement, ce qu'était le réceptacle de la ville, qui est ce lieu de la vie avec les autres. Et quand on analyse cette vie avec les autres, dans toute ville traditionnelle, elle se fait dans un très subtil gradient d'espace entre l'espace familial, l'espace de voisinage, l'espace de quartier, l'espace de la cité. Et c'est ça qui fait à la fois la richesse sociale de la vie en ville, mais aussi sa richesse économique, puisque c'est à partir de ces différents cercles, de ces différents types de relations, que finalement on booste une ville et une ville devient dynamique en termes culturels, en termes intellectuels, en termes économiques. Et donc, toute notre approche a été à partir du voisinage, en disant qu'est-ce que c'est que finalement un lieu où on vit bien avec ses voisins, comment on organise ça, en se disant on est dans la Chine contemporaine, mais ils ont derrière eux une très grande tradition qui est celle du Hutong, qui est un lieu extraordinaire de sociabilité, enfin le Hutong dans le nord, d'autres types de quartiers dans le sud.
Et où il y a une vraie vie familiale, y compris avec les ancêtres,
voisinage, voilà.
Les personnes âgées ne sont pas mises de côté.
On sent que toutes les solidarités du vieux monde qui sont souvent cassées, dissolues dans notre monde urbain, existaient. Et comment on peut les retrouver dans la ville contemporaine, alors qu'est aussi la ville du digital qui aide beaucoup à créer un nouveau type de solidarité. Et donc, comment on part de cette unité, si je puis dire, de vie, et qu'à partir de là, on dit qu'il y a une autre échelle qui est celle du district, du quartier, dans lequel il y a le bureau de poste, l'école, le boulanger, etc. Et comment, à partir de là, on réfléchit à l'échelle de la ville, où il y a les grands équipements, ou bien on va bosser dans un autre quartier, et comment la mobilité se met en place à partir de là, et comment on se met en place la limite de la ville et son rapport au grand espace ouvert, qui, dans le cas d'espèce, a été agricole, donc comment on fait perdurer une agriculture mais plus orientée vers la ville, et donc du coup cet espace devient un lieu à la fois de régénération.
Ils ont cette réceptivité à l'agriculture urbaine.
Et l'agriculture urbaine rentre mais elle rentre à partir d'un raisonnement qui part finalement de ce qui doit être la matrice de la vie en société. J'aime beaucoup citer pour moi ce qui est la plus grande phrase qui a été prononcée en urbanisme, qui est celle de Winston Churchill: We shape the buildings and therefore they shape us. La ville, c'est pareil. We shape the cities and therefore they shape us. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir comment ce cadre bâti nous shape, nous forme. Et organise,
nous modèle.
Nous modèle cette vie en société. Et donc, si on voit la ville de cette manière-là, on produit un cadre bâti d'une toute autre nature, puisqu'il est organisé à l'échelle de l'homme. À l'échelle de l'homme individu, à l'échelle de l'homme en groupe, à l'échelle de l'homme vie en société. Et à partir de là, quand on a organisé l'espace avec ce raisonnement, on peut repartir, si je puis dire, dans l'autre sens, en ayant une approche systémique absolument indispensable pour que le métabolisme de la ville soit vertueux, c'est-à-dire la manière dont on s'y déplace, la manière dont on communique, la manière dont on produit, on consomme et on partage de l'énergie, etc.
Et est-ce qu'il y a dans ce modèle la place pour les chemins de traverse? Parce que quand on t'écoute, on a l'impression, c'est tout à fait attirant et formidable, et ça donne envie d'y aller voir, mais ça donne le sentiment, moi je suis latine tout de même, ça donne le sentiment qu'il n'y a peut-être pas de possibilité de chemin de traverse, que tout est tellement modélisé qu'on en oublie d'être un peu latin.
Alors, j'ai presque envie de dire qu'il faut que le chemin de traverse soit fasse partie du modèle, au sens où je pense que l'espace public au sens large, c'est-à-dire l'usage public, après il peut être de statut privé ou public, de la ville contemporaine, se doit d'être un espace flexible et un espace robuste, comme on dit dans les systèmes d'ingénierie, au sens où dès qu'une solution ne fonctionne pas, on peut en trouver une autre pour résoudre le même problème. On le dit toujours, et c'est connu des urbanistes, c'est une grande qualité par exemple du tissu haussmannien, qu'il est extrêmement robuste au sens où il permet des tas de possibilités pour une même fonction finalement, ou un même trajet, ou une même... voilà. Et du coup, ces chemins de traverse existent au sens où ils sont ils ouvrent un monde de possibles, ils ne préformatent pas des réponses appropriées comme on l'avait chez les urbanistes de la charte d'Athènes avec les hiérarchies de voirie, et où finalement vous aviez une solution pour un problème donné. Il faut que structurellement on ait un système qui ouvre au possible.
Et là c'est compris par les officiels chinois?
On a été très très bien reçus dans ces propositions.
Parce que c'est inhabituel quand même.
Exactement, on sent qu'ils sont beaucoup interrogés, que... Alors je n'aurais pas la prétention de dire qu'on a amorcé un mouvement, mais on sent qu'ils ont envie d'approfondir le dialogue et de travailler de cette manière-là sur leur ville du futur.
y compris pour quelque chose qui n'est pas dans l'habitude, je dirais, de la Chine contemporaine.
La Chine contemporaine, elle a plus des pratiques que des habitudes. Elle a des pratiques qui sont, parce qu'il faut développer, donc l'énergie est
donc
là,
faut aller vite.
Le moteur est là. Elle a un moteur, elle n'a pas beaucoup de volants et de tableaux de bord. Et son problème est là.
Elle fait un peu tabula rasa du passé quand même. On a quelques modèles.
Mais c'est ce que j'appelle l'absence de tableau de bord. C'est-à-dire que c'est pratiquement une non-planification. Le fait effectivement de faire tabula rasa et puis de poser des tours ou des barres orientées nord et sud comme à Pékin. Je pense qu'il y a une très très profonde attente à la fois des autorités et des milieux intellectuels. Bon, dans les jurys de ce genre de concours, il y a beaucoup d'universitaires, d'urbanistes qui sont prêts à approfondir ce dialogue pour imaginer effectivement un autre futur pour les villes chinoises.
Formidable. Merci Étienne. On n'a pas eu l'occasion de parler des gares de la SGP et d'un certain nombre de...
Revenons à Paris.
Mais c'est pas grave. Voilà. On revient à Paris deux minutes. De toute façon, je pense que les auditeurs et les architectes, urbanistes et autres qui écouteront en podcast cette émission et celle et la précédente auront l'occasion de regarder où la REP a posé ses valises sur à la fois les gares de la SGP et puis sur certains sujets de la métropole, mais voilà, on verra ça en septembre lorsque les jurys seront, auront décidé. Merci Étienne, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir et bonne journée, chers auditeurs. À bientôt sur nos antennes.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.